Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
Ouais, ben on pourra pas avoir de l'actualité plus fraîche que ça dans les prochaines secondes parce qu'on va aller rejoindre Judith Demel en plein dans le palais de justice. Elle vient juste de sortir d'un dossier. Je sais qu'elle a bien des histoires à nous raconter. Mais d'abord, peut-être vous dire, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Il est 16h23. Pour nous rejoindre par texto, c'est le 418-971-1021. Par téléphone, c'est le 418-780-1021. On est en plein cœur de l'heure de pointe, Audrey.
Il y a des problèmes si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne. Ils sont assez denses en plus, là. Il y a quelques troubles aussi si vous êtes sur la capitale, direction Ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Laurier et la capitale. Charest, direction Est, entre Duplessis et Henri IV, particulièrement difficile. Henri IV Sud, de la capitale au pont, c'est au ralenti. C'est un vrai foutoir, honnêtement, là, si vous êtes sur Henri IV en ce moment, direction Sud. Duplessis Sud, entre Charest et les ponts, difficile également. Dans le coin de Shannon, route de la Bravoure, direction Nord surtout, là, quand vous vous dirigez vers Shannon, c'est assez lourd également. Route de Fossambeau, ça se passe entre Désérable et de la Jacques-Cartier. Si on s'en va sur la rive sud, Guillaume-Couture à la hauteur de Taniata dans les deux directions, c'est au ralenti. Entre la route du Président Kennedy et Chemin des Îles aussi. Pour ce qui est de la 20, c'est direction ouest surtout, entre la route du Président Kennedy et Taniata. Autre chose, 418-971-102, texto.
Elle est journaliste judiciaire pour Le Soleil. On s'en va la rejoindre justement au palais de justice. Judith Demel, bonjour.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Oui, beaucoup d'histoires dark encore à se partager aujourd'hui, puis peut-être commencer à l'envers de ce qu'on avait prévu au départ, parce que tu viens juste de sortir d'une cause, là.
Oui, l'audience s'est terminée, là, il y a à peine une demi-heure, en fait.
C'est concernant la tentative de meurtre à Lévis, c'est bien ça?
Exact. C'est une tentative de meurtre qui est survenue en mai 2025, et là, l'homme vient de plaider coupable aujourd'hui puis a été condamné à 9 ans de prison.
C'est quoi son nom est connu, j'imagine?
Oui, c'est Frédéric Racine. En fait, il y a une ordonnance qui protège l'identité de la victime parce que la tentative de meurtre s'est produite en contexte conjugal. Donc, mm-hmm. C'est un homme qui a tenté d'assassiner sa conjointe parce qu'elle venait de parler d'une potentielle séparation. Ça a créé une extrême colère et puis il y a eu une violente agression. Donc, il y a une ordonnance qui protège la victime, mais on peut quand même souligner là, le fait que c'était son conjoint pour bien raconter l'histoire.
Et de ce que je comprends, le juge, ou plutôt la juge, dans son discours, a fait mention des problèmes de drogue ou d'alcool de l'accusé, mais... ça justifie rien, puis tu peux pas te servir de ça comme excuse.
Non, en effet. Puis la juge avait un fort message à la fin parce que, bon, selon la trame factuelle, Frédéric Racine avait des problèmes de consommation de drogue et d'alcool depuis plusieurs années. Il consommait beaucoup. Et c'est un petit peu ce qui aurait provoqué là, son extrême colère. Là, on parle d'une possible psychose toxique, mais ça n'a pas été retenu par le tribunal. Là, il n'a pas voulu faire défense là-dessus.
Okay.
Et dans le fond, le message, c'est qu'à toutes les personnes, à tous les hommes qui sont prises avec ces problématiques-là, c'est de les régler avant d'en arriver là et de commettre ces gestes-là.
Même en plaidant coupable, quand tu te fais annoncer que tu t'en vas 9 ans en dedans, ça a été quoi sa réaction?
Il semblait quand même avoir beaucoup de remords chez lui. Il a pleuré pendant l'audience, surtout quand la victime s'est adressée au tribunal.
Okay.
Il s'est excusé à la fin. Là, je vous le dis souvent, là, quand un accusé part pour la prison, selon la loi, on est obligé de lui donner la parole. Donc, il peut s'exprimer une dernière fois devant le tribunal. Puis lui, il a tenu à le faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas enlever ce qui s'était passé, mais qu'il était désolé.
Est-ce que dans ce temps-là, Judith, ça semble toucher les gens quand un accusé a l'air comme ça.
Oui, ils n'ont pas de sympathie non plus dans leur sac.
Non, c'est ça, je me demande.
Ça dépend. Dans ce contexte-là, il a regardé la victime quand il s'est excusé et la victime n'a pas rendu son regard. Okay. Elle n'a pas bronché, elle ne lui a pas fait de sourire, elle ne l'a pas regardé. Je pense qu'elle est restée de marbre, concentrée sur ce qu'elle avait à faire. Elle tenait à s'exprimer devant le tribunal parce qu'il faut qu'elle décrive les conséquences qu'elle vit depuis l'agression, parce qu'on parle de 8 coups de couteau qui ont été donnés.
Violent, hein?
Elle a eu une opération à la gorge parce que ça l'a touché la veine là, bien importante dans ce
dans la jugulaire
exactement. Et elle a parlé des blessures physiques, mais c'est surtout les blessures psychologiques qui marquent. Aujourd'hui, elle a des caméras de surveillance chez elle parce qu'elle est en hypervigilance. Elle fait de l'insomnie. Elle est en thérapie. Elle a un choc post-traumatique. Donc, tout ça avec quoi elle doit composer aujourd'hui. Puis, les derniers mots de sa déclaration, elle les a réservés pour toutes les victimes d'actes criminels. Puis, elle a dit que vous n'êtes pas seul et que le chemin de la guérison, de la reconstruction est long, mais il est possible. Et lentement, mais sûrement, on va passer au travers. C'est un peu ça qu'elle a dit. Puis, ses cicatrices aujourd'hui, elle les voit comme des marques de survie, pas comme des marques qui lui ont presque enlevé la vie, là.
Judith, on va changer de dossier pour parler du cauchemar de bien des parents, Snapchat. À partir de quel âge on installe ça aux jeunes? Puis c'est un débat permanent, c'est source de conflits aussi. Mais tabarnouche, quand on se fait raconter des histoires comme tu vas nous raconter dans les prochaines minutes, on peut pas dire qu'on paranoïe les parents puis qu'on, je pense qu'on fait juste preuve de prudence et de vigilance.
Puis là, c'est Snapchat, mais il y en a de plus en plus, là. Je veux dire, j'ai entendu, là, un peu plus tard que la semaine passée, des nouveaux réseaux, là, émergents que je ne connais pas et je ne suis pas si vieille que ça. ça s'accumule, il y en a des nouveaux tout le temps. Ouais. C'est tout le temps de rester à l'affût par rapport à ça parce que dès qu'il y a une plateforme de clavardage, c'est exactement le piège parfait pour les agresseurs sexuels et les hommes qui veulent leurrer des enfants.
Et dans le cas présent, ben c'est un homme originaire du Mexique qui a leurré deux filles de 12 ans.
C'est Marc-Andrés Hérault. Il entretenait une conversation avec l'une de ses victimes depuis plusieurs mois avant de la rencontrer. Ils se sont ajoutés sur Snapchat. C'est pas clair qui a ajouté qui. La jeune fille, elle avait 12 ans. Et lui, il en avait 25 à ce moment-là. Bon, il a prétendu être mineur au début, puis ils ont continué à se parler, ils se sont échangés des photos. Ils ont convenu de se rencontrer. Donc, la jeune fille, lorsqu'elle est en visite chez ses grands-parents, elle dit « Ah, viens me chercher à la maison, moi je vais sortir. » Elle est allée dans le véhicule. Les grands-parents l'ont vu partir et ont contacté la police à ce moment-ci. Mais bon, il n'y avait rien à faire sur le champ, là. Et ils sont allés dans un rang voisin, puis Marc-Andrés Hérault a profité de l'occasion pour l'agresser sexuellement sur la banquette arrière du véhicule.
Oh, mon Dieu.
Puis lorsqu'il est allé la reporter à la maison, là, ils ont tout de suite été portés plainte à la police. Puis il faut savoir que même si la fille de 12 ans pensait que c'était correct, qu'elle
avait son consentement, là, ouais.
L'âge de consentement au Canada est de 16 ans. Donc, peu importe ce qu'elle fait, elle n'était pas en âge de consentir à tout geste sexuel.
Vas-y, Judith.
C'est que finalement, souvent, ces gens-là, il n'y a pas juste une victime qui est faite. Donc, en arrêtant Marc-Andrés Hérault pour ce crime-là, il y a eu analyse de son téléphone, puis on a trouvé qu'il y avait d'autres conversations avec d'autres jeunes filles de 12 ans. Les policiers ont été capables d'en identifier une et puis celle-ci a été rencontrée et il y a eu des échanges à caractère sexuel et des photos d'elle nue qui ont été envoyées là-dessus. Donc, il fait face à des accusations là, de leurre pour cette victime-là et de production de pornographie juvénile.
Est-ce que j'ai compris qu'il y a des chances qu'il retourne au Mexique?
Oui. Il y a des peines minimales dans les crimes sexuels sur les mineurs et donc là, ça va être à savoir si l'avocat peut faire une demande pour pas avoir la peine minimale, mais là, ça va être une requête spéciale. Et donc, avant de plaider coupable, lorsque tu as un statut d'immigration, c'est toujours précisé que en plaidant coupable, vous savez et vous acceptez qu'il va avoir des conséquences sur le statut d'immigration. Ouais.
Judith, la troisième histoire qu'on va jaser ensemble, on en a fait mention hier dans nos bulletins de nouvelles. Quand on parle de quelqu'un qui est incorrigible sur une vingtaine d'années, c'est une personne qui a tué parce qu'il conduisait en état d'ébriété et il s'est retrouvé encore une fois dans une situation similaire avec en plus un enfant à bord.
Oui, c'est Sébastien Proulx, En 2005, il avait été condamné à 23 mois de prison parce qu'il avait conduit en état d'ébriété et avait tué sa fiancée, qui était passagère dans son véhicule. Donc, il a été condamné pour ça. Puis là, on se retrouve 20 ans plus tard. Puis il a été arrêté là, en avril 2024 parce qu'il roulait complètement ivre, puis avec son enfant à bord du véhicule. Puis c'est à noter parce que la juge, en rendant sa peine hier, a fait la mention, c'est que lui était au volant du véhicule, puis il s'est rendu dans un espèce de stationnement où il y a des garages
Oui.
loués. Il a voulu entrer pour accéder à son garage, puis il y avait de la misère à rentrer le code pour la barrière, puis on voyait bien qu'il roulait bizarrement. Et c'est les employés qui ont vu ça sur les caméras qui ont tout de suite contacté la police. Donc, il y avait aussi un
Ben oui.
avertissement par rapport à ça, de dès qu'on voit quelque chose, qu'on sent que ça va pas, ben vaut mieux dénoncer que de se dire, ah, oh, il est sûrement correct ou, tu sais, je vais m'aller de mes affaires. Donc, il y avait aussi ce message-là parce que peut-être qu'il n'aurait jamais été arrêté si ces témoins-là n'avaient pas communiqué avec la police, ou pire encore, s'ils ne l'avaient pas fait, il y aurait pu avoir quelque chose de plus grave qui se serait produit au retour à la maison, là.
La peine, c'est quoi? Puis j'imagine qu'il y avait un facteur d'aggravement étant donné son sombre passé.
Oui, c'est un récidiviste. Puis, à chaque fois qu'on condamne des accusés, il y a un rapport qui est fait par un agent de probation. Puis, tout dépend du rapport, s'il est positif ou négatif. Celui de Sébastien Proulx était mitigé. Il y avait certains points positifs. Là, pour l'instant, il se dit abstinent. Donc, il a arrêté de consommer de l'alcool pour pas que ça réarrive et a des remords sincères. À l'inverse, il n'a pas entamé de suivi thérapeutique digne de mention, puis il semble avoir encore un désir de minimiser ses gestes. Et donc, c'était mitigé de ce côté-là. Vu que c'est un récidiviste, on est allé à 15 mois de prison. Puis ça, il faut noter qu'il n'y a pas eu de conséquences. Et nous, on voit l'enfant dans l'auto, fait que ça fait grincer des dents,
Ben
puis on
oui.
pense, tu sais, c'est un facteur atténuant, c'est sûr, mais étant donné qu'il n'y a pas eu de conséquences là qu'on peut quantifier, ben c'est dur là d'aller plus haut. Puis la poursuite avait proposé une peine de 24 mois, qui est très grosse dans le contexte. Puis on n'est pas allé là parce que la juge a dit qu'il avait déjà purgé une peine pour son crime plus grave commis en 2001 et qu'on pouvait pas punir un accusé un peu deux fois pour le même geste.
Il y avait eu une peine de combien de mois pour avoir tué quelqu'un en 2001?
C'est ça qui choque un peu parce qu'en 2005, il a été condamné à 23 mois. Puis c'est sûr
Hey, c'est pas
qu'aujourd'hui,
beaucoup.
s'il faisait le même geste avec les peines qui ont augmenté, puis le fléau de l'alcool au volant, c'est très peu probable qu'il aurait eu la même peine. En
OK.
fait, de toutes les personnes qui ont été condamnées dans les dernières années depuis que je suis ici là, pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, j'ai jamais rien vu en bas de 4 ans, là.
Judith, même à distance, même avec des histoires lugubres, c'est toujours un plaisir.
Merci à vous.
Bye bye, à la prochaine.
Bye.
Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil en direct du Palais de justice. Je pense qu'elle était allée se cacher dans les petites salles là, où
Oh, ça se peut,
les
ouais.
clients consultent leurs avocats. Je pense avoir reconnu le décor en arrière. Des histoires
Le décor en
incroyables.
arrière, le mur blanc en
Le mur
arrière,
blanc, les murs
avec les
blancs,
néons
oui.
au plafond.
Oui.
En fait, elle aurait pu être d'un cabinet de gynécologue aussi. Chaleureux, là.
Je peux pas dire que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis si vous autres, vous pensez à des cabinets de gynécologie, ça doit pas vous
Non.
rappeler des bons souvenirs non plus.
Non, il
non
y a des
plus.
bureaux de dentiste plus à Cayenne.
Il est 16h36. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe.